Ukraine et à Gaza.
Midi 10 à Paris, c'est la fin de ce journal et tout de suite, 8 milliards de voisins.
Merci beaucoup à RFI pour ce journal. Il est midi 10 sur la clé des ondes et vous écoutez le plat de résistance. On est ensemble jusqu'à 13h et ce midi, on parle de politique et de mobilisation sociale. Le Premier ministre Michel Barnier fait sa déclaration de politique générale aujourd'hui à 15h devant l'Assemblée nationale et les syndicats, eux, appellent à la grève et à des mobilisations. On va parler de ça avec une membre de l'intersyndicale à Bordeaux. Et puis on se demandera quelle est encore l'importance des grèves aujourd'hui et comment faire grève aujourd'hui. À 13h, ce sera Histoire de voir, histoire au pluriel et un retour de Saint-Jacques envoyé par Jean-Pierre. On commence avec quelques infos et cette déclaration assez surprenante. Déclaration du ministre de l'Intérieur, Retailleau. Je pense qu'une société multiculturelle comporte des risques de devenir une société multiraciste. Les règles finissent par protéger les individus dangereux davantage que les victimes de la société. Et un peu plus loin, il ajoute, l'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. Voilà donc un ministre de l'Intérieur qui se montre anti-républicain contre l'état de droit, puisque eh bien, l'inverse de l'état de droit, c'est le règne de l'arbitraire, l'absence de règles et de la toute-puissance du plus fort. Retailleau dit ici la même chose que Zemmour en 2021 qui parlait, qui opposait la protection des Français à ce qu'on appelle pompeusement un état de droit. Voilà une nouvelle preuve de glissement du gouvernement vers l'extrême droite. On verra ce qu'il en est dans la déclaration de politique générale de Michel Barnier tout à l'heure à 15h. Et on reparle de tout ça tout de suite après avec la mobilisation sociale du jour. Un mot aussi de ce qu'on peut lire aujourd'hui dans Sud-Ouest avec un témoignage de trois anciennes salariées de crèche Babylou à Bordeaux, crèche privée. Des bébés en détresse qu'on laisse pleurer au sol, des invasions de fourmis et même des rats, des enfants qui ne voient pas la lumière du jour de toute la journée, pas de jouets non plus. C'est le tableau donc que dressent ces trois anciennes salariées. Elles racontent avoir dû faire face en 2023 à un manque récurrent d'effectifs qui les amenait souvent à devoir s'occuper de 12 bébés à seulement 2 salariés, devoir faire manger ces 12 petits assis par terre et alignés contre un mur, ou encore ne pas pouvoir se rendre compte qu'un enfant de 2 ans et demi s'était enfui de la crèche. La communication de Babylou, interrogée par Sud-Ouest, avoue des périodes difficiles en 2023 liées à des difficultés de recrutement, mais nie tout problème systémique. C'est pourtant des problèmes systémiques que pointe le journaliste Victor Castanet dans son livre « Les ogres » récemment paru. Ces trois anciennes salariées, après avoir constitué un collectif, alerté et fait grève, eh bien elles ont démissionné et ne veulent plus du tout travailler en crèche aujourd'hui. Un mot aussi du conseil municipal qui se tient cet après-midi à Bordeaux, conseil municipal bordelais, à partir de 14h à suivre si ça vous intéresse sur le Facebook de la mairie et sur le site internet de la mairie de Bordeaux. Et puis au conseil régional, cette fois c'est le président lui-même, Alain Rousset, qui est mis en examen pour détournement de fonds publics. Il est soupçonné d'avoir utilisé les moyens du conseil régional pour sa réélection en 2015. Des mails échangés pendant la campagne et transmis à la justice par un ancien agent montreraient en effet que des membres du cabinet, mais aussi du personnel administratif, auraient réalisé des missions davantage liées à la campagne électorale que à leur temps de travail, que à leur mission au service de la région. Voilà pour ces quelques infos locales.
Aujourd'hui, mardi 1er octobre, c'est une journée de grève et de manifestation, de mobilisation nationale à l'appel de plusieurs syndicats et d'autres organisations. On va en reparler. On parle, nous, de ce qui se passe du côté de Bordeaux avec Catherine Dudez. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Tu es co-secrétaire départementale de la FSU. Peut-être pour commencer, pourquoi cette journée, en fait, tout simplement, de mobilisation en ce 1er octobre ?
Alors, c'est une journée qui a été décidée il y a un petit moment. Et en fait, la date retenue, c'était pour faire coïncider une mobilisation avec l'ouverture des discussions sur le budget de l'État à l'Assemblée nationale.
Aujourd'hui, c'est le jour où Michel Barnier, c'est ça, va faire son discours de politique générale devant cette assemblée. Quel message les syndicats ont décidé d'envoyer à ce nouveau gouvernement ?
Le message, c'est essentiellement axé sur trois points, donc pas d'austérité budgétaire, puisque ce seront les services publics qui sont déjà très en difficulté, qui vont pâtir de telles décisions. Ensuite, c'est obtenir et montrer qu'on est déterminé sur l'abrogation de la réforme des retraites et qu'on est très à l'offensive sur toutes les questions de revalorisation salariale dans le public, dans le privé et autour de la question de la hausse du SMIC, mais pas seulement.
On avait pu voir pendant les élections législatives là certains débats chez les syndicats de est-ce qu'il fallait soutenir la dynamique du nouveau Front populaire ou pas. Il y a eu la date du 7 septembre, une manifestation appelée par les partis politiques, avec là aussi la question de est-ce que les syndicats rejoignent ou pas. Comment on se positionne en tant que syndicat, en tant que FSU en tout cas, pour ce qui te concerne, dans ce contexte-là politique assez particulier depuis les élections?
Moi, je pense qu'il faut jouer sur tous les champs. Donc, la FSU a eu un positionnement clair puisqu'on a appelé à soutenir un programme de rupture qui était le programme du Nouveau Front Populaire. On y retrouvait beaucoup de nos revendications, pas toutes, mais on en retrouvait beaucoup. Par exemple, l'abrogation de la réforme des retraites, où il y avait aussi dans l'éducation nationale la suppression du choc des savoirs. Il y avait un point sur les salaires. Mais nous, on part du principe que dans le mouvement social, tout le monde a sa partie à jouer. Donc, par exemple, le 7 octobre, on n'a pas appelé puisque c'était une initiative des partis politiques, mais on s'y est inscrit puisqu'on est venu tracter, differ, discuter, préparer le 1er octobre. Et je pense que, enfin, à la FSU, on est persuadé d'une chose, c'est qu'au regard des enjeux, il faut qu'on mobilise, nous, sur le lieu de travail, sur les lieux de travail et qu'on travaille aussi avec la société civile, mais que conjointement, c'est l'association du mouvement syndical et de l'action politique qui permettront d'obtenir une vraie politique de rupture.
Pour l'instant, est-ce qu'il y a déjà eu des contacts entre les syndicats, le nouveau gouvernement ? On a pu lire que Michel Barnier avait reçu la semaine dernière tout un tas de représentants, y compris de syndicats. Est-ce que la FSU y a été associée ? Est-ce qu'il y a déjà des discussions avec le Premier ministre, avec d'autres ministres sur certains points ?
Alors la FSU, dans le cadre du dialogue social, n'est jamais hostile à rencontrer le gouvernement fraîchement nommé. Après, c'est pas un gouvernement d'extrême droite. Là, la question se poserait, puisqu'on a eu beaucoup de débats au cas où l'extrême droite arriverait au pouvoir, comment syndicalement on se positionnerait. Là, on reste dans l'arc républicain. Donc, à un moment donné, aller présenter quelles sont nos lignes de force, nos lignes rouges, les revendications des salariés, c'est important. Après, on se fait pas d'illusions sur le fait d'être que nos revendications soient prises en considération par ce gouvernement. S'il n'y a pas de rapport de force, on n'obtiendra rien.
On voit quand même que c'est un gouvernement qui semble assez fragile de par son absence de majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça veut dire que pour les syndicats, pour les travailleurs, travailleuses, c'est peut-être l'opportunité de pousser davantage le rapport de force et d'arriver à vraiment le faire bouger ?
Nous, on aimerait construire une mobilisation la plus large possible. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu que peut-être que dans ce gouvernement, beaucoup n'ont pas forcément de points communs. Ils en ont un. C'est quand même l'alliance des trois droites pour éviter qu'il y ait vraiment un programme qui améliore les conditions de vie et de travail du plus grand nombre, en particulier des plus faibles. Donc nous, on va essayer de construire, oui, une mobilisation à tous les échelons. Mais bon, on voit aussi que c'est compliqué parce que les salariés sont vraiment en colère, mais il y a une forme aussi d'abattement. Ils se sont impliqués dans ces élections législatives, ils ont espéré autre chose. Et là, on est reparti. On dirait que c'est comme si on avait eu 3 mois de coma et on se réveille, on a changé de nom de Premier ministre, mais on ne change rien en termes d'orientation politique. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce travail à initier, puis donner aussi et convaincre les personnes qu'il y a de l'espoir et qu'ensemble, on va y arriver. Mais ce n'est vraiment pas simple.
Tu as parlé de l'alliance des trois droites. Il me semble que tu es professeur d'histoire géo. Est-ce que tu peux préciser de quoi il s'agit ?
Alors, c'est le centre droit, la droite classique, traditionnelle et l'extrême droite.
Et c'est un schéma qui s'est déjà produit à plusieurs reprises dans l'histoire française, quand la droite est forte, quand ces trois droites-là s'allient, c'est ça ?
Oui, et la droite est forte quand ces trois droites s'allient, mais surtout ces trois droites s'allient quand un projet de rupture politique, sociale, puis maintenant on peut dire environnementale, se profile. Donc là, il y a panique dans la demeure, ils savent s'allier, oui, à ce moment-là.
Et c'est peut-être ça justement la note d'espoir pour arriver à mobiliser les gens, de dire ben, il se passe ça parce que en fait on est fort et parce qu'il y a un vrai rapport de force qui se construit.
Oui, ça peut être le temps qui est donné, mais après il faut réussir à mettre de la dynamique dans tout ça. Ce qui est là, c'est pas simple. Voilà.
On avait quitté les intersyndicales, l'intersyndicale nationale en début d'année, il me semble, qui est resté sur cette dynamique justement née de la mobilisation contre la réforme des retraites, donc une intersyndicale unie avec Force ouvrière, avec la CFDT qui appelait aux mêmes mobilisations. Là, ce n'est plus le cas pour cette journée. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça signifie peut-être de ce qui se passe au niveau national entre les syndicats ?
Alors, je pense qu'il n'y a pas de rupture. Je pense que les échanges continuent. Mais après, suivant certains syndicats, il y a des stratégies un peu différentes. Tous les syndicats n'ont pas appelé à soutenir le programme du nouveau Front populaire. Voilà, il y a un arc syndical, par contre, offensif qui s'est dessiné en se disant que, comme tu l'as dit, il y a une carte à jouer. Donc, redonnant espoir et portant un projet alternatif. Après, les ruptures sont... Il n'y a pas de rupture syndicale, mais il y a des approches un petit peu différentes. On a bien vu que Barnier avait dit que, bon, sur la réforme des retraites, il y avait peut-être des aménagements possibles. Là, c'est... À ce compte-là, peut-être que l'arc syndical sera moins uni. Mais le printemps a révélé une chose, c'est qu'elle a aussi mobilisé syndicats et associations sur un projet de société beaucoup plus large que le simple champ des revendications sur les conditions de travail et les revendications sur le terrain emploi, salaire, conditions de travail. Mais cette dynamique est très intéressante aussi.
Alors effectivement, puisque donc pour ce qui est de l'intersyndicale qui appelle à cette journée de grève au niveau national, c'est la CGT, FSU, Solidaire et puis les organes de jeunesse UNEF, Union étudiante et USL. Mais au niveau de la Gironde, et peut-être d'ailleurs que c'est le cas dans d'autres départements aussi, à d'autres endroits en France, il y a aussi ce que vous appelez une inter-orga qui s'est mise en place depuis juin dernier, si je ne me trompe pas, qui rassemble plus largement avec aussi des associations, des collectifs, notamment ATTAC, le Planning Familial, la Ligue des Droits de l'Homme, l'AG Féministe ici. C'est quoi ce nouveau cadre-là et c'est quoi peut-être son intérêt, Catherine Dudès ?
Alors c'est à la fois un nouveau cadre, mais pour la FSU, c'est pas non plus un cadre si nouveau que ça. On a dans notre champ d'action, on a tout ce qui est lien sur les conditions de travail, les réformes dans nos champs professionnels, mais aussi on porte un projet de société alternative et qu'on construit au-delà du simple cercle FSU. Donc ça a l'air d'être un bel exemple girondin, parce que je suis montée à la FSU nationale la semaine dernière et c'est pas forcément le cas dans d'autres départements, mais sur l'entre-deux-tours, il y a eu, à partir de l'appel de la LDH contre les idées d'extrême droite, la volonté de se réunir ensemble. Donc on avait débattu sur soutien, pas soutien au nouveau programme du Front populaire, comment s'impliquer dans la campagne, comment aller convaincre les gens des dangers de l'extrême droite. On a aussi eu une analyse sur la situation du département entre une métropole qui est plutôt de sensibilité avec un électorat qui est plus facile à convaincre et des zones périurbaines ou rurales où là le Front National le Rassemblement National est plus implanté. Donc on a essayé de travailler ensemble à la lutte contre l'extrême droite, mais aussi pour porter des projets alternatifs. Et cet inter-orga s'est créé après les élections européennes, s'est fortement impliqué dans l'entre-deux-tours des législatives et à la rentrée on a décidé qu'on était en sursis et que si on ne maintenait pas une dynamique collective, eh bien, dans un an, trois mois, dans trois ans, on ne pouvait pas se représenter comme ça devant les citoyens et les citoyennes en tractant, en diffant, en disant il y a danger, voter pour un programme de rupture. On s'est dit qu'il faut qu'on travaille ensemble pour convaincre au plus près du terrain. Donc on essaie de faire vivre cet inter-orga. Et le 1er octobre était un point de ralliement aussi, puisque le budget de l'État concerne les services publics, par exemple, donc le champ syndical, mais concerne aussi tout le champ associatif qui voit depuis quelque temps ses subventions réduites fortement à la baisse. Donc on travaille ensemble.
Et alors justement, vous avez choisi d'insister sur cette question-là du budget, avec un tract que vous avez co-rédigé sur le budget Macron-Barnier, l'austérité comme projet de société. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant? C'est quoi les inquiétudes pour vous sur cette question-là du budget?
Mais on a déjà mis en avant que si c'est la bascule entre est-ce qu'on regarde du côté des dépenses ou est-ce qu'on regarde du côté des recettes. Essayer de bouger le discours ambiant en ayant un focus que sur les dépenses. Voilà, et dire que pour qu'un budget de l'État soit plus à l'équilibre, eh bien, on peut travailler sur les recettes et prendre de l'argent là où il y en a. Donc, on a essayé de convaincre, en partant du quotidien des personnes, comment on pouvait maintenir ou essayer de reconstituer des services publics sur l'ensemble des territoires, sans opposer les territoires ruraux, par exemple, et les territoires urbains. Et à partir de là, montrer que si on taxait par exemple les super profits ou les plus riches, ben eux, à la fin du mois, ça ne représenterait pas grand-chose. Mais rappeler quand même que les services publics, c'est la richesse de ceux qui n'ont rien. Et s'ils sont financés, bien, il y aura des hôpitaux de proximité, des écoles, des routes. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire en déconstruisant recettes-dépenses et en partant de situations réelles dans le département avec des exemples concrets dans certains services publics. Voilà.
Et c'est vrai qu'au niveau des discours politiques et médiatiques, on entend ce truc de augmenter les impôts, ce n'est pas possible, c'est une ligne rouge, ça, dans la bouche de plein d'élus, ça n'est juste pas imaginable. C'est justement tout un travail à faire de démonter ça et de dire, bah, en fait, si, c'est très simple et ça peut se faire très facilement et ça change la donne.
Oui, les impôts, c'est quand même une forme de... Il y a une forme de justice sociale. Après, que tout le monde paye à hauteur de ce qu'il gagne ou de son patrimoine ou des recettes de son entreprise, ce devrait être la règle.
Peut-être un petit mot de justement ce que ces questions-là budgétaires qui parfois semblent très froides, des chiffres qui ne disent rien, de ce que ça peut vouloir dire très concrètement au niveau local, au niveau de la vie quotidienne des gens. Vous avez cité quelques exemples, c'est ça, de ce que ce projet d'austérité peut faire concrètement?
Concrètement, ça veut dire moins d'écoles. Voilà, donc c'est utiliser la baisse d'effectifs dans les écoles primaires et maternelles dans les prochaines années pour récupérer des postes. Ça veut dire aussi concrètement l'austérité budgétaire. Je vais parler cash, c'est pour tous les personnels qui travaillent dans les services publics au quotidien qui sont très mal payés. Eh bien, c'est continuer à être encore plus mal payés. Voilà. Et puis utiliser par exemple dans les services publics la précarité, c'est-à-dire on peut faire croire que des services publics existent en maintenant des personnes en situation excessivement précaire, voilà. Et je trouve que c'est fortement injuste parce que les usagers n'auront pas un service de qualité et les personnes qui sont censées être au service des usagers le font dans des conditions de rémunération et pas seulement de rémunération, aussi de place dans un service public et qui ne sont pas acceptables. Je prends par exemple la question des AESH, c'est pas possible qu'elles travaillent pour moins de 900 euros par mois, qu'elles aient en charge des élèves avec des situations de handicap excessivement différentes et qu'elles n'aient pas un temps de formation conséquent pour aborder toutes les situations de handicap. On ne peut pas dire qu'on a une école inclusive et puis le faire sans moyens.
Justement, peut-être un petit mot pour terminer sur le monde éducatif, puisque c'est le tien. Comment s'est passée cette rentrée avec pas encore de ministre nommé début septembre, une réforme qui s'applique ou pas? Comment s'est passée cette rentrée 2024?
Les collègues sont toujours très en colère sur la manière dont leur métier est de plus en plus déconsidéré. Voilà, c'est-à-dire qu'ils prennent des réformes alors qu'ils disent qu'elles ne marcheront pas, qu'ils le prouvent concrètement, elles s'appliquent quand même. Là, on a eu une rentrée, oui, les collègues étaient abattus, en colère. Par exemple, ils attendaient le soutien en collège des inspecteurs et inspectrices pour venir les accompagner dans la mise en place des groupes de niveau. Ils ont toujours dit qu'ils étaient contre, mais bon, en même temps, si on vous dit que c'est la solution miracle, eh bien, qu'on vienne concrètement accompagner les collègues sur le terrain. C'est une rentrée où dans les établissements, on n'a pas vu ces personnels. Voilà. Donc les collègues, ils se sentent abandonnés. Après, ils comparent, ils discutent. Ben, il y a des établissements scolaires où on a respecté l'esprit de la réforme, d'autres où on s'est arrangé de la réforme, d'autres où on ne l'a pas mise en place. Les collègues qui prennent les groupes de niveau faible, ça fait déjà un mois en français et en mathématiques. En fait, ils sont abattus. parce qu'ils sont, ils vous disent qu'ils sont à la fois psychologues, assistants sociaux, conseillers familiales, enfin, qui sont à la fois professeurs pour élèves allophones. Enfin, c'est, il y a peut-être moins de 15 élèves, mais c'est, l'hétérogénéité de ces groupes faibles est ingérable. Donc, ils sont à la fois abattus et en colère. Ils espéraient qu'on aurait au moins un gage avec ce nouveau gouvernement. Belloubé avait laissé entrevoir quelques possibilités, qu'au moins les groupes de niveau, on abandonnerait totalement, voire on ne les mettrait plus en place à la rentrée prochaine en quatrième et troisième, parce qu'en plus, ça passe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de professeurs, il n'y a pas assez de salles. Et puis, dans la relation pédagogique, dans la construction de la relation avec la classe, dans le travail d'équipe, c'est infaisable. Et là, on peut se dire que, vu l'équipe qu'on va avoir à l'Éducation nationale, le duo, là, on a vraiment du souci à se faire. Parce que notre ministre, c'est la copine de Gabriel Attal, donc le ton est bien donné.
C'est Anne Genté qui a été nommée ministre de l'Éducation nationale de ce gouvernement Barnier. Oui. Donc, est-ce qu'on sait d'elle et de ses orientations ?
Alors, Anne Genté, on sait qu'elle n'a jamais travaillé dans l'Éducation nationale. Voilà. Donc bon, on peut se dire qu'elle a des hauts fonctionnaires qui l'aideront. On a bien vu Macron ce printemps a nommé à la DGESCO, c'est-à-dire à la direction qui s'occupe de l'orientation et des projets scolaires. Donc bon, elle sera quand même bien accompagnée, mais elle a jamais enseigné. Et puis la seule approche qu'elle a de la pédagogie, c'est de former des femmes de ménage philippines pour les expatriés à Singapour. Ça donne pas un très bon signe. Quant au ministre qui, secrétaire d'État, qui va s'occuper de la voie professionnelle, de la réussite scolaire. On l'a vu s'illustrer à l'Assemblée nationale cet hiver, puisqu'il est monté au créneau pour défendre l'enseignement privé, et derrière, il y avait Stanislas.
Est-ce qu'on sait, là, en cette rentrée, combien, quelle proportion d'établissements ont mis en application les groupes de niveau et combien ne l'ont pas fait ?
C'est très compliqué à savoir. Par exemple, notre syndicat avait lancé une enquête, et une enquête flash. Et en fait, c'est compliqué parce qu'on a à la fois des établissements. Ce qui se dégage majoritairement, c'est qu'il y a des groupes. Voilà. Le maintien de la classe, c'est dans des établissements minoritaires. C'est là, essentiellement, où ils n'avaient pas assez de professeurs de maths et de professeurs de français pour alimenter les groupes. Après, dans les autres établissements, le profil majoritaire qui semble se dégager, c'est qu'il y a des groupes, mais qui sont hétérogènes. Voilà. Ou alors, il y a des groupes hétérogènes et un ou deux groupes d'élèves faibles. Voilà. Mais avoir la statistique claire, ce n'est pas forcément évident.
Alors, il y a donc cette journée de mobilisation de grève en ce 1er octobre. C'est quoi la suite ? J'imagine qu'il y a une suite, il y aura une suite au niveau de l'intersyndicale nationale et puis une suite localement avec l'interorga où vous allez continuer à travailler. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ce qui se prépare ?
Les suites, je pense que quand même la journée d'aujourd'hui, déjà cet après-midi, il va y avoir le discours de Barnier à l'Assemblée nationale. Donc, ça va montrer, ça va donner le temps entre nous, le projet qu'on porte, les inquiétudes qu'on avait soulevées et la réalité de cette orientation politique qu'il va apporter. On ne se fait pas d'illusions. Après, il y a une bataille à construire collectivement. Nous, on cherche l'unité la plus large possible et on espère raccrocher un arc syndical un petit peu plus large. Peut-être que d'autres organisations syndicales attendaient tout simplement d'avoir ce discours de politique générale, parce que construire une mobilisation quand on n'a rien de concret, soit on se dit on va montrer les dents et on va dire attention, on est là, soit alors on attend, on mesure la réalité des orientations politiques, on construit quelque chose ensemble après. Nous, à FSU, on souhaite continuer ce travail dans l'unité syndicale la plus large possible pour continuer à s'opposer à certaines réformes, mais aussi à se dire qu'il fallait qu'ils entendent que nous aussi, on n'est pas toujours en contre, et à redonner espoir en montrant qu'on a aussi des pistes fortes pour dire qu'on peut construire autre chose. Mmh. Voilà. Donc, et après, l'interorga en Gironde, on se réunit à la mi-octobre, et on va continuer à essayer de travailler à ce maillage territorial, c'est-à-dire à échanger et à mettre en commun nos forces militantes pour aller au plus près du terrain. Et on aimerait aussi faire un travail, essayer de faire venir un spécialiste ou une spécialiste sur la question de l'extrême droite dans un premier temps pour nous former déjà nous, et puis une fois qu'on est outillé, développer un argumentaire pour aller déconstruire leurs programmes, leurs idées auprès des personnes. Voilà.
Cet interrogage, j'en ai cité quelques-uns, mais donc il y a des syndicats, la FSU solidaire, la CGT, des organes de jeunesse, le planning familial, ATTAC, la Ligue des droits de l'homme, l'Assemblée générale féministe, Réseau éducation sans frontières, Touche pas à mon pote, Greenpeace et sans doute d'autres. Est-ce que ça reste ouvert et voilà, les organes, les collectifs qui voudraient les rejoindre peuvent aussi vous contacter et rentrer dans cet interrogage?
Oui, il n'y a pas de souci. Par exemple, on a Stop LGV qui est venu et comme ils n'ont pas de logo, on ne les a pas mis sur le track. Mais bien sûr, par exemple, les orgas de jeunesse sont venus, d'autres sont revenus. Oui, c'est très ouvert.
Voilà. Très bien, merci beaucoup Catherine Dudès, donc co-secrétaire, je rappelle, co-secrétaire départementale du syndicat FSU. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà pour cette interview avec Catherine Dudès enregistrée ce matin du côté de la Bourse du Travail. Alors la Clé des Ondes essaye toujours d'avoir des reporters de choc sur le terrain. On va essayer d'avoir par téléphone Jean-François Mekel de l'équipe du Guide du Bordeaux Colonial qui se trouve dans la manif. Salut Jean-François. Alors, on ne t'entend pas hyper bien. Si tu peux mettre ton combiné, parler plus en face du micro, peut-être. Décris-nous un petit peu comment ça se passe là dans le cortège. Qu'est-ce que tu vois autour de toi dans la manif, Jean-François?
Alors, depuis le début, je dis que ce n'est pas énormément de monde. Mais plus ça va, je pense qu'on est entre 2000 et 3000. Donc avec de gros bataillons, évidemment, de la CGT, puisque la CFDT n'est pas là. De la FSU et de Solidaire, et puis bon, les habituels groupuscules aussi sont là, tout un tas d'assauts. Ça commence à faire une manif un peu conséquente, voilà, entre 2 et 3 000, peut-être un peu plus. C'est un peu difficile à compter.
Très bien. Est-ce que tu as un manifestant, une manifestante auprès de toi à qui on pourrait donner la parole quelques minutes?
Alors, j'ai l'embarras du choix. Je vais faire ça vraiment au hasard. Pardon, bonjour. Jean-François Mekel, vous êtes ici avec la Clé des Ondes. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter rapidement? Vous êtes militant CDT, visiblement.
Oui.
Votre prénom?
Alain Thomas.
Et vous travaillez
à la retraite?
À la retraite, oui.
Ancien salarié de TBM. D'accord.
Et dites-moi un peu. On sait, bon, c'est globalement les raisons de cette manif. Quelles sont vos motivations pour être là?
Des motivations bien collectives, bien sûr. Le pouvoir d'achat. Donc, pour ma part, l'augmentation des retraites. Mais c'est le pouvoir d'achat en général, quoi. C'est y compris les salaires qui font d'ailleurs les retraites de demain. Et puis les services publics. Parce que les services publics aujourd'hui sont peau de chagrin. Il faut qu'on revienne à plus de solidarité entre les populations et arrêter avec ces agences postales où il y a plus rien. Et d'ailleurs, on se rend compte aujourd'hui qu'elles ferment les unes après les autres. Donc c'est tout ce système-là qu'il faut remettre en cause. Et puis, y compris quand on regarde surtout ce qui est social, ben, la remise en cause de cette réforme des retraites à 64 ans qui nous ramène 40 ans en arrière.
Et ce fameux déficit, vers où il faut aller pour récupérer quelques milliards?
Je dirais tranquillement prendre l'argent là où il est. Et il est où aujourd'hui? Il est 175 milliards d'exonération de charges aux entreprises, 150 milliards de baisse d'impôts. Il faut savoir qu'on veut remettre à 33% pour les super riches. C'était ce qu'il y avait avant l'arrivée de Macron. Et donc l'argent, il n'existe. 100 milliards de, au moins 100 milliards d'exonération fiscale. Bon voilà, il y a tout ça, quoi. L'argent, il existe. Il faut le prendre là où il est.
Cet après-midi, on va voir la présentation du projet politique de ce gouvernement. Gouvernement de quoi? De droite, on dit de droite?
Droite parrainée par l'extrême droite, quoi, on va dire. Moi, je ne m'attends pas à des miracles. On va faire quelques petits trucs à la marge pour essayer de calmer les esprits. Mais en réalité, c'est la continuité de ce qui se fait jusqu'à présent. C'est-à-dire on continuera à alimenter les grandes richesses au détriment des populations, de la grande masse de population qui est en difficulté aujourd'hui. Moi, je travaille au resto au Secours Populaire, et je peux vous dire que mes appels, pareil, au resto du cœur, la pauvreté le grandit, on a de plus en plus de bénéficiaires qu'on ne voyait pas. Là, on voyait beaucoup de jeunes, maintenant, on voit beaucoup de retraités, qui n'y arrivent plus. Donc voilà, on ne peut pas continuer comme ça.
Merci beaucoup.
Voilà, j'espère que la liaison était bonne.
La liaison était très bonne. Merci beaucoup Jean-François, Jeff, Mekel, pour ce petit moment qui nous permet de vivre aussi ce qui se passe dans la manif et pourquoi plusieurs milliers de personnes y sont aujourd'hui du côté de Bordeaux comme dans plein d'autres rendez-vous un peu partout en France. On continue à parler de ce sujet, grève, comment faire grève, quelle est la place des syndicats dans la grève, en quoi tout ça est important pour ce qu'on peut appeler la démocratie sociale. C'est le maître de conférence en sciences politiques, Baptiste Giraud. C'est pas moi, c'est un autre auteur du livre « Réapprendre à faire grève aux presses universitaires de France » qui apporte des réponses à toutes ces questions. Il était l'invité de la midinale du site regard.info le 11 septembre dernier, interrogé par Pablo Pio Vivien. Et on écoute tout de suite une partie de cet entretien. Alors ça s'est fait en visio, donc il faut tendre un petit peu l'oreille. Mais voilà, Baptiste Giraud au micro de Pablo Pio Vivien.
Le bouquin, il est né de la volonté, effectivement, j'allais dire, si ce n'est de répondre, en tout cas de partir de cette incantation assez récurrente dans les cortèges syndicaux d'une partie des militants, et j'insiste sur ce premier point, une partie des militants qui en appellent très, très souvent à la grève générale de manière un petit peu incantatoire. Et l'objet du livre, tout simplement, c'est de s'interroger de manière très empirique, là, à partir d'une enquête sociologique, sur les conditions de possibilité de ces grèves et notamment de leur extension aux travailleurs et aux travailleuses, je devrais dire surtout les plus précaires, celles et ceux qui travaillent dans ce que j'appelle dans l'ouvrage « capitalisme de service », c'est-à-dire les travailleurs de la logistique, les travailleuses d'aide à domicile, dans le nettoyage, notamment dans les hôtels parisiens, parce que c'est mon terrain d'enquête en particulier. Et pour montrer tout le chemin, en fait, qui reste à parcourir pour les organisations syndicales, et notamment mon enquête porte sur la CGT, proprement dite, donc tout le chemin qui reste à parcourir pour réussir à créer les conditions pour que les organisations syndicales soient en capacité d'organiser. 36, c'est quand même une controverse entre historiens, effectivement, entre ceux qui disent c'est une mobilisation spontanée et d'autres. Et je pense notamment au travail d'Edward Charter et Charles Stilley, qui sont deux sociologues américains, qui ont décortiqué cette vague de grève et qui montrent quand même, et je pense que c'est un enseignement important, que ces grèves, effectivement, elles démarrent sans mot d'ordre des centrales syndicales, mais elles s'amorcent et se développent d'abord à partir des entreprises dans lesquelles les syndicats sont présents et où donc il y a des militants qui ont le savoir-faire, ont la capacité à organiser ces grèves et ensuite ça va produire un effet d'entraînement qui va faciliter l'entrée en mouvement ensuite de travailleurs moins organisés syndicalement. Bon, pourquoi je fais ce rappel historique ? Parce qu'effectivement, avec tous les débats autour du nouveau Front populaire, a ressurgi cette idée de la mobilisation sociale nécessaire pour créer les conditions d'une alternative politique, sauf que l'état du syndicalisme entre 1936 et celui d'aujourd'hui, il a beaucoup changé et il s'est beaucoup, affaibli. Et donc, si je devais résumer l'ouvrage, je dirais que mon objectif, c'était de résister à deux tentations. Une tentation misérabiliste, qui consiste à voir ces travailleurs et ces travailleuses, notamment précarisés, qui subissent les transformations du capitalisme sans résistance. Et là, je montre avec bien d'autres collègues toutes les formes de micro-résistance qu'ils sont en capacité d'opposer au pouvoir despotique patronal, mais de résister aussi à une autre tentation, une tentation un petit peu enchantée. C'est surtout ça que je qualifierais du rapport des syndicalistes et des salariés à la grève, en montrant que c'est pas parce que ces salariés résistent à l'autoritarisme, au despotisme patronal, que pour autant, ce sont des salariés qui ont une grande culture de la grève, qui se reconnaissent dans ces grands mots d'ordre politiques du syndicalisme, de l'appel à la grève générale en particulier, et que ça nécessite tout un travail d'acculturation mené par les permanents syndicaux au quotidien, mais avec peu de moyens. Et c'est l'autre objet du livre, de montrer aussi comment tous ces permanents bricolent. Hein, ces permanents, donc là, pour être précis pour nos auditeurs, là, c'est une union syndicale, mais je peux généraliser aux unions locales, ceux qui ont précisément vocation à essayer d'organiser les luttes de ces travailleurs qui sont peu organisés syndicalement. Ils sont très peu nombreux, ils sont assez démunis matériellement, organisationnellement, pour assumer ce travail d'organisation des mobilisations.
Alors, justement, tu as utilisé plusieurs concepts avec lesquels je pense tout le monde n'est pas familier. Tu parles de savoir-faire de la grève, tu parles d'acculturation à la grève. Est-ce que c'est exactement la même chose? Non, je ne le pense pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire quoi? De quoi ont besoin les travailleurs et les travailleuses lorsqu'ils font grève? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait grève ou qui se sont jamais beaucoup posé la question, qui se disent « Oh, bah, c'est facile, hein, il suffit de dire je suis en grève et puis basta, c'est bon, on est en grève. » Mais qu'est-ce que ça veut dire organiser une grève et pourquoi c'est compliqué?
Alors c'est vrai qu'on pourrait dire d'ailleurs que c'est quasiment un paradoxe, c'est que ceux qui font le moins grève, hein, les travailleurs, travailleuses qui font le moins grève, sont précisément ceux pour lesquels les conditions légales d'entrée dans la grève sont les moins contraignantes. Parce qu'effectivement, je le rappelle, c'est peut-être un préalable, dans le secteur privé, il n'y a pas de dépôt de préavis nécessaire. Il suffit de se déclarer en grève au moment où on se met en grève et de signifier à son employeur les raisons professionnelles, donc les revendications professionnelles pour lesquelles on se met en grève. Alors que dans le secteur public, mais ça c'est plus connu, il y a un préavis préalable nécessaire. Bon. Et pour autant, donc a priori, les conditions légales de l'entrée de la mise en grève sont peu contraignantes en France, et pour autant, contrairement à l'image qui est souvent véhiculée sur les syndicalistes et les salariés français, les grèves n'ont jamais été aussi peu nombreuses en France. En tout cas, elles ont beaucoup perdu en intensité, que ce soit du point de vue de leur nombre ou du point de vue du nombre de travailleurs qui y participent. Alors bien sûr, je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir, il y a plein de raisons liées aux transformations du capitalisme qui l'expliquent, la précarisation de la condition salariale, l'émergence de nouveaux secteurs, on en parlait que d'un, de la logistique, qui n'existait pas, pour ainsi dire, il y a 30 ans, et donc dans lesquels tout le travail d'enracinement syndical est à faire. Et donc, mais dans ces secteurs-là aussi, il y a, et c'est l'objet du livre, tout un travail pour former, tout simplement, les militants à la grève. Alors peut-être, pour partir juste d'un enseignement fort des enquêtes sociologiques depuis un siècle, les grèves se déclenchent très majoritairement dans des entreprises dotées de représentants syndicaux. La grève sans syndicat, ça n'existe pas. Je pense que c'est un premier acquis très robuste d'un point de vue statistique de l'analyse sociologique qu'il faut rappeler. Et déjà, ça écorne un peu cette vision enchantée du spontanéisme des masses et du spontanéisme des grèves. Bon, le problème, c'est que la présence syndicale dans les entreprises s'est beaucoup rétractée. Deuxième problème auquel doivent faire face les organisations syndicales, le corps des militants se renouvelle. Alors évidemment, il y a tout un ensemble de secteurs dont on entend d'ailleurs souvent parler dans les médias, parce que c'est des grèves visibles qui perturbent le quotidien. Donc je pense évidemment au transport public, ferroviaire, RATP pour les Parisiens, ou les entreprises publiques de manière plus large, ou la fonction publique, où il y a tout un réservoir, j'allais dire, de militants qui ont eu l'habitude et qui ont appris, chemin faisant, à faire grève, à organiser la grève et être en capacité à inciter leurs collègues à se mettre en grève. Mais dans beaucoup d'autres secteurs, il y a beaucoup de militants qui sont des néophytes du syndicalisme, qui y sont rentrés pour des raisons d'ordre généralement plus individuel ou personnel, pour résoudre des problèmes liés à un non-paiement d'heures supplémentaires, pour répondre à une menace de sanction de la part d'un employeur. En tout cas, qui n'y entrent pas du tout pour des raisons politiques. Et deuxièmement, qui n'ont pas une grande expérience de l'action militante, qu'elle soit dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Or, agir comme un militant en capacité à organiser la grève, ça nécessite d'abord d'avoir tout un ensemble de ce que nous on appelle des savoir-faire militants, c'est-à-dire savoir très concrètement comment organiser la grève. Peut-être le plus simple, c'est que je prenne un exemple que je développe dans l'ouvrage d'un jeune militant d'une enseigne de magasin de sport qui s'engage pour la première fois dans une grève, dans les Halles, dans le quartier des Halles à Châtelet. Il organise son débrayage un samedi et au moment de l'action, en fait, il s'aperçoit qu'il a oublié, il n'a pas de mégaphone, il n'a pas de pétition, alors qu'il y a plein d'usagers ou de gens qui passent, de passage, sinon, est-ce qu'on peut vous soutenir? Et bon, lui, il n'a pas prévu tout ça. Alors évidemment, pour plein de militants aguerris, chevronnés, entre guillemets, ça va de soi, on y pense, mais derrière, il y a eu tout un apprentissage. Donc, il y a d'abord tout cet apprentissage.